position. On attaque, s'il y en a un qui n'ont pas eu le programme, il en reste un. Ok, alors on y va. Cours de doctrine appliquée. On finit, je pense, ce soir. Enfin, on finit, parce qu'il faut finir à un moment donné. Sur ce thème-là, on a commencé avec la grâce de Dieu. On a parlé notamment la semaine dernière sur la parabole des ouvriers et du maître généreux en Matthieu chapitre 20. Et on expliquait que, en fait, la grâce de Dieu, c'est l'homme naturel, il voit ça comme une injustice, en fait. C'est trop extrême, c'est injuste. Pas compliqué, c'est injuste parce que nous, on a travaillé toute la journée et on a le même salaire que celui qui a travaillé qu'une heure. D'accord ? Et donc, et en fait, la conclusion de cet enseignement qu'on a donné, c'est que les seules personnes en fait qui se réjouissent de la grâce de Dieu, ce sont ceux qui sont au bénéfice de la grâce de Dieu. Ceux qui vivent selon les œuvres, selon les efforts humains, selon leur justice propre, ou leur légalisme, ou leurs propres efforts, eux, la grâce de Dieu, c'est... Mais pour celui qui a compris que s'il n'y a pas la grâce de Dieu, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de solution, celui qui a compris en fait qu'il est faible et qu'il est incapable de pouvoir satisfaire la justice de Dieu, mais qu'il peut la recevoir gratuitement, alors lui, il va... Ah, d'ailleurs, ceux qui... ceux qui ont reçu le même salaire et qui ont été payés, ceux qui ont travaillé qu'une heure, qui sont arrivés les derniers, qui ont travaillé juste une heure et qui ont reçu le même salaire, eux, ils étaient heureux, hein, dans Matthieu chapitre 20. Donc, c'est, voilà, on a besoin de réaliser, quand on lit cette parabole, première réaction... Naturellement, ça coince un peu. Mais c'est pas juste. Mais si on fait partie des ouvriers de la dernière heure, si on comprend qu'on n'est que des ouvriers de la dernière heure, alors oui, merci Seigneur pour la grâce. Hein. Parce que ces hommes étaient perdus, en fait. Vous imaginez la situation de ne pas travailler. À cette époque-là, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Hein. Donc pour eux, c'était... Voilà. C'était dans une situation tragique. Et l'homme, s'il ne comprend pas qu'il est dans une situation tragique, eh ben, il ne peut pas voir la grâce de Dieu. Il ne peut pas l'apprécier, il ne peut pas la recevoir. Et il ne peut pas s'en réjouir. Mais quand il a compris sa position, quand on a compris notre état de pécheur, quand on a compris notre nature, et quand on commence à comprendre la sainteté de Dieu, ben, c'est la grâce de Dieu. C'est la seule solution, c'est la seule réponse à l'humanité, n'est-ce pas? Donc, ça fait qu'on n'est plus dans la comparaison, on n'est plus dans la justice propre, on n'est plus dans l'effort, on est dans la communion, et on va parler de ça. On va parler de la grâce et de la sanctification ce soir. Parce que, peut-être avant ça, juste faire un point avec, replacer encore parler de la grâce et de la loi. On sait que Jésus, quand il est venu sur la terre, il a dit qu'il n'était pas venu abolir la loi. La loi de Dieu, elle est bonne, elle est sainte, hein, l'apôtre Paul le dira. Il n'est pas venu l'abolir, il est venu l'accomplir, la loi. N'est-ce pas? La grâce de Dieu, c'est pas de dire, ben non, on abaisse le standard, on n'est plus sous la loi, il n'y a plus de loi, donc voilà, c'est plus facile parce que maintenant, il n'y a plus la loi. Non, la loi, elle est toujours là, et même quand Jésus parle et qu'il fait référence à la loi, il rehausse même le niveau, d'accord ? Ce n'est pas juste sur des actes et des commandements et des attitudes extérieures, c'est carrément jusqu'au cœur Dieu regarde jusqu'au cœur. Et donc, en fait, la grâce de Dieu, c'est le seul moyen de recevoir de Dieu... un amour même pour la loi de Dieu, pour la vérité, pour la lumière, et pour tendre vers. Hein, parce que, et on va le voir, l'homme ne peut pas accomplir la loi, et l'homme ne peut pas se sauver par la loi. Hein, la loi a été donnée pour ça. Mais c'est pas qu'aujourd'hui, maintenant, on est chrétien, on est dans la Nouvelle Alliance, et on doit... Le problème du légalisme, c'est qu'ils utilisaient la loi comme le moyen... Ils essayaient de satisfaire les exigences de la loi comme le moyen de se justifier. La grâce nous dit non, aucun homme ne pourra se justifier par la loi devant Dieu, parce que Dieu est saint et que nous, on est pécheurs. Donc ça, c'est impossible. Mais ça ne veut pas pour autant dire que la loi est mauvaise. Maintenant, la seule loi, il n'y a plus de loi. Bien sûr que les principes de Dieu, mais on n'est plus sous ce commandement, on n'est plus sous cette domination qui amène, comment dire, cette forme de culpabilité, cette forme de crainte, où on sait qu'on n'y arrive pas. Alors on peut faire les hypocrites, mais faire les hypocrites, c'est encore pire que tout. Hein, ça peut peut-être nous séduire nous-mêmes, ou ça peut peut-être faire croire que, mais certainement pas à Dieu. D'accord. Donc le légalisme, le problème aujourd'hui, c'est que dans le christianisme, ça existe. C'est-à-dire que les gens essayent de penser qu'ils sont justes parce qu'ils font ce qu'il faut. Ben, on n'est pas juste parce qu'on fait ce qu'il faut. On ne peut pas faire ce qu'il faut aux yeux de Dieu. On est juste parce que Christ, c'est sur les mérites de Christ, c'est ça la grâce. C'est sur l'œuvre de Christ. D'accord. C'est parce que Christ a payé, c'est parce que Christ est parfait, c'est parce qu'on est en Christ, c'est parce qu'il nous a couvert de sa justice qu'aujourd'hui on est juste. C'est pas parce qu'on a bien fait ou bien réussi. Hein, donc on va parler de la sanctification, de notre position, et de bien comprendre ce que la croix de Christ, l'œuvre de Christ, l'œuvre accomplie nous offre. Et c'est important parce que c'est pas naturel ça. Donc si on n'est pas bien fondé dans ça, on glisse facilement dans un système d'œuvres où on essaye de plaire à Dieu par nos propres œuvres. Et là, on va se retrouver face au découragement ou l'hypocrisie qu'on va embrasser. D'accord ? Parce que c'est impossible. Seigneur, merci de nous encourager ce soir encore. Aide-nous à comprendre ce principe de la grâce. Aide-nous à le saisir, à le recevoir, à nous y attacher, à reconnaître que c'est la vérité. La grâce et la vérité, c'est Jésus-Christ. Et Seigneur, on veut voir Jésus, on veut comprendre et on veut s'attacher à toi. Amen. Donc, Dieu désire s'acquérir un peuple depuis toujours. Il a choisi le peuple d'Israël. Et puis, le peuple d'Israël, si on regarde son histoire, ça a été, c'est un peu l'histoire de l'homme, hein. C'est que, voilà, on résiste, on se rebelle, on s'éloigne de Dieu, on abandonne Dieu, on cherche. Ça n'a pas changé aujourd'hui, hein. N'est-ce pas? Et même dans nos cœurs, on voit ça, des fois des endurcissements. On voit voilà, on se refroidit vis-à-vis du Seigneur, on laisse peut-être des distances, du temps, on ne le prie pas, on ne lui parle pas, on n'ouvre pas sa parole. Voilà. Parce que c'est le cœur de l'homme, d'accord? Néanmoins, ce qu'on croit, c'est que Dieu, quand il s'engage, quand il fait une alliance, il va jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'on croit que le peuple d'Israël, Dieu a toujours son plan pour le peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'on croit que le millénium sera un millénium terrestre. Parce qu'aujourd'hui, dans le christianisme, beaucoup, en France maintenant, les chrétiens sont ce qu'on appelle amillénaristes. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils disent qu'il n'y a pas de millénium, parce que la Bible en parle, mais ils pensent que le millénium n'est pas terrestre, mais spirituel. D'accord ? Mais nous croyons qu'il sera terrestre, et que ce que Dieu a commencé avec Israël, avec ce peuple-là, il va l'amener jusqu'au bout. Et parce que ce peuple-là s'est endurci, et qu'ils ont rejeté le Messie, ben, le message a été annoncé à toute l'art. On a entendu ça au cours de super cours de Bruno lundi soir. À toute l'humanité. Donc c'était le plan de Dieu, évidemment, que tous les hommes soient sauvés. Et donc nous, maintenant, on est le peuple. La Bible, en 1 Pierre 2,9, il dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Et donc, nous, on est une nation sainte, un peuple acquis. Et avec un projet d'annoncer, ici, on le voit, annoncer la grâce de Dieu. Parce que tout ce qu'on a fait, nous, c'était de répondre à l'appel, à la voix, à l'amour, au sacrifice, à ce Jésus mis en croix. Hein. Et c'est ce qui a fait qu'on a reçu ce grand salut. C'est pour ça que Jésus dira lui-même en Matthieu 5, 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Donc, il faut bien comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas de dire bah, « il y a la grâce, alors on peut vivre n'importe quoi, de toute façon, il y a la grâce. » Ne vous inquiétez pas, on vit tout ce qu'on a envie de vivre. Voilà. Pas besoin d'autorisation, on le fait quand même. Mais justement, la grâce, la loi nous... Vous savez, quand on a une loi, qu'est-ce que l'homme fait quand il y a une loi qui le gêne? Il la contourne. C'est pour ça qu'on est dans un pays, en France, où on a des lois, mais le code civil est... J'exagère un peu, mais il est énorme. D'accord? Et à chaque situation, on rajoute, et puis on se dit, ah oui, mais ça, il faut faire une loi pour ça, parce que là... Et puis les hommes trouvent un moyen encore pour trouver une solution pour... C'est juste la chair. Hein. Voilà. Parce que la loi, on ne peut pas l'accomplir, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on a tellement besoin de comprendre que la grâce nous élève. Par la grâce de Dieu, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, la grâce de Dieu manifestée, la grâce de Dieu en... On sait que c'est la personne de Jésus-Christ, en Jean chapitre 1, verset 14 et verset 17. Hein, c'est la loi est venue par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est lui, la grâce et la vérité qui est venue. Donc la vérité de Dieu, elle est trop haute pour nous. Mais la grâce de Dieu, ben, elle est devenue accessible. C'est que ce Jésus qui était dans le ciel saint, parfait, inatteignable, il s'est abaissé jusqu'à nous. Il a accompli la loi pour nous et il a payé notre dette afin que nous, maintenant, on puisse vivre. Donc, la grâce de Dieu, c'est le moyen de tendre vers cette perfection. En comprenant bien que la question, c'est comment on veut faire. Et c'est là où on doit bien comprendre que ce n'est pas par les efforts humains d'essayer de simplement accomplir des lois ou des commandements. C'est de rencontrer la grâce, c'est de saisir la grâce, c'est de recevoir la grâce, c'est de rebondir. Parce que vous avez peut-être déjà remarqué ça, mais on est attaché à la poussière. Hein, Psaume 119, verset 25, « Mon âme est attachée à la poussière. » Et on a besoin de rebondir. Et qu'est-ce qui va nous aider à rebondir? La grâce de Dieu. Et j'aimerais nous encourager peut-être à une chose ce soir, c'est de prendre du temps, peut-être dans ces prochains jours, prendre du temps, planifier de prendre un peu de temps. Quelques minutes, une minute, deux minutes, trois minutes, dix minutes, selon votre capacité, selon le temps que vous pouvez mettre, mais de s'arrêter et de regarder à la croix de Jésus. Et de regarder à l'amour de Jésus manifesté. Parce que quelquefois, on est tous là, on est des êtres humains, « Seigneur, montre-moi que tu m'aimes. » Mais c'est déjà fait, ça. Et même s'il ne nous montre aucune autre preuve, il a déjà montré. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est fait, ça. Il nous aime. C'est indéniable. D'accord? Donc, et nous, le problème, c'est que le diable essaie de nous détourner de ça. Et on est tellement occupé à regarder à nous, à nos situations, à nos problèmes, à nos difficultés, qu'on a besoin d'être recentré. Regardez, la grâce, elle est là. La grâce, c'est que le juste est mort pour moi qui suis injuste. Afin que je devienne juste. Afin que, par sa grâce, maintenant, Dieu devienne accessible. Hein, c'est un trône de grâce. Dieu devienne accessible. Donc la grâce n'abaisse pas le standard divin, elle l'élève. Et elle nous élève avec, elle nous donne la capacité, on va le voir. Donc, de réaliser que c'est à cause de la bonté de Dieu qu'on peut être sauvé. Éphésiens chapitre 2, verset 4. Verset 1 à 3. Paul fait le constat de l'humanité qui est sous la domination du prince de la puissance de l'air, qui est des enfants de la rébellion, et où les gens étaient morts dans leur péché. Voilà, ça c'est notre état. Sans espérance, sans avenir, rien. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, c'est à cause de la bonté de Dieu. C'est à cause de la bonté de Dieu que, et à cause de la miséricorde de Dieu et de la grâce de Dieu et de son grand amour dont il nous a aimés, qu'on peut... recevoir la grâce maintenant et recevoir ce qu'on ne mérite pas. C'est ça la grâce. Et j'aimerais vous dire que bien souvent, naturellement, on essaye de mériter des choses de Dieu. N'est-ce pas? C'est naturel. C'est humain. On veut essayer de gagner la faveur de Dieu. Mais on l'a. Elle est acquise. Il est pour nous. Il est avec nous. Quand on prêche la grâce à l'extrême, il y a des gens qui se lèvent et qui disent « Oh là, mais si tu prêches comme ça, c'est-à-dire que les gens ils vont faire tout et n'importe quoi. » Il faut mettre un peu de crainte, un peu de loi. Hein. Parce que la loi, en fait, la motivation dans la loi, c'est la crainte. Et si on essaye de plaire à Dieu selon la loi, en fait, on part toujours en déficit. Parce qu'on sait qu'on est à côté de la plaque. D'accord ? Donc on essaye toujours de combler le manque. Et c'est une motivation de culpabilité, c'est une motivation de crainte, alors que la grâce, c'est une motivation d'amour. Et c'est ce qui fait toute la différence. Et c'est ce qui fera toute la différence lorsque, avec vos enfants, l'éducation, et que vous leur donnez, s'il y a cette couverture de grâce et cet amour inconditionnel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des règles, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la discipline, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une correction, bien évidemment. Mais il y a... Parce que on parlait avec un frère, avec Roger, avec ton mari, on parlait de ça. Et avec les animaux, on peut les dresser, n'est-ce pas? On peut arriver à obtenir un comportement avec des animaux. Ils se tiennent assis, debout, couchés, les pattes en l'air. Enfin, ils nous amusent, ils font plein de choses. Voilà, on est content. Et on va avoir bientôt des spécialistes ici du dressage de chiens. Voilà, c'est super. Mais le problème, c'est que l'homme fait la même chose avec les humains. C'est qu'il les dresse. C'est-à-dire qu'on a le bon comportement. Ah, mon petit, alors là, il est nickel à l'église, il est bien habillé, c'est un bien, il fait pas un pet de travers. D'accord ? Devant toi, il fait rien de travers. Parce qu'il a la crainte. D'accord ? Et l'homme, souvent, il fonctionne comme ça devant Dieu. C'est quand il est conscient de Dieu, Puis après, il peut penser qu'il peut se cacher de Dieu. Je sais pas comment il arrive à... on est fort quand même. Hein. On arrive à penser qu'on peut faire des trucs que Dieu voit pas. Comme s'il y avait des trucs que Dieu ne voyait pas. Mais quand on est tout seul avec soi-même, on a plus la liberté quelque part. On se sent plus libre. Parce qu'on n'est pas conscient que Dieu voit tout aussi, de la même manière. Et les enfants, c'est la même chose. Donc Dieu ne demande pas de les dresser, Dieu nous demande de les éduquer, de les aimer. D'accord ? Et ça se fait avec la grâce et la vérité. Comme nous. C'est pour ça que c'était tellement important. C'est tellement important de comprendre cette grâce que Dieu nous a accordée. Un verset dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, il dit « Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous. » 1 Corinthiens 1, 30. « Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous, sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'on comprend bien que la croix de Jésus-Christ, parce que quand on lit dans Romains chapitre 4, l'histoire d'Abraham en particulier, que sa foi, parce qu'il a cru Dieu, parce qu'il a reçu ce que Dieu lui offrait, ben sa foi était... Il a reçu, parce qu'il a cru, il a reçu la justice de Dieu. Et nous qui croyons que Jésus-Christ est notre bouc émissaire, est notre Seigneur, est notre Sauveur, qui est mort à notre place, qui a payé pour nos péchés, nous qui croyons ça, et croyons qu'il est ressuscité et qu'il nous offre... Ben nous recevons parce que nous croyons, pas parce qu'on a fait quelque chose, mais parce que nous croyons ce qu'il dit, ce qu'il nous offre, nous recevons sa justice. Et il nous impute de sa justice. C'est-à-dire que souvent, les gens religieux, ils ont cette idée de balance en disant que bon, s'ils ont fait plutôt des bonnes choses, quand ils arriveront devant Dieu, Dieu va les accepter. Mais c'est vraiment avoir une pauvre compréhension de la nature de Dieu, de la sainteté de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la justice. Pour rentrer dans la présence de Dieu, il faut la justice de Dieu. Ça ne suffit pas d'avoir la moyenne. Ça, c'est pour les êtres humains, pour passer dans la classe supérieure. Enfin, aujourd'hui, tout le monde passe. Mais vous comprenez? Pour pouvoir se présenter devant Dieu, il faut être juste comme Dieu est juste. Et ça, aucun homme ne peut ne peut l'avoir, sauf Jésus-Christ. D'accord, évidemment. Dieu fait homme, qui lui a cette justice-là et qui l'offre à ceux qui croient en lui. Donc, nous avons été imputés. Il a pris nos péchés. Nos péchés, il a été mis sur lui, il a été imputé de nos péchés, et à la place, il nous a donné sa justice. Donc nous, ben nous sommes justes, comme Christ est juste. Et ici, si on lit le verset, nous sommes sages, comme il est sage, et nous sommes saints, comme il est saint. Et comme lui-même a été ressuscité, la rédemption, nous aussi, on en sera ressuscité. Quand on va mourir. Donc ça veut dire que en position, et c'est bien et c'est très important de comprendre ça, c'est que devant Dieu, nous sommes déjà saints. Dans notre position. Alors ça ne veut pas dire que dans l'expérience, dans notre quotidien, il n'y a pas encore le péché, il n'y a pas encore des... Mais devant Dieu, nous sommes en Jésus-Christ, et en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle création, et cette nouvelle création, elle est juste. Elle est sainte. D'ailleurs, c'est Jean qui dira que quiconque est né de Dieu, 1 Jean 3,9, ne pratique pas le péché. D'accord ? Parce que la semence de Dieu demeure en lui, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et là, on parle de la nouvelle création, de 2 Corinthiens 5,17. Hein, toutes choses anciennes sont passées, voici, vous êtes devenus une nouvelle création. Et ça, c'est important de comprendre ça. C'est que quand je pêche, quand je tombe, quand j'échoue, dans ma position, je ne tombe pas. Ce n'est pas un jour je suis assis avec Jésus-Christ parce que j'ai bien fait, ah, le lendemain, alors là, je ne mérite même pas de regarder là-haut tellement j'en suis pas digne. En fait, j'en suis toujours jamais digne de ça. Mais par Christ, je suis assis. Et même si j'ai péché, je suis toujours assis dans les lieux célestes. Parce que j'appartiens à l'Église. Et l'Église est assise dans les lieux célestes. En Éphésiens chapitre 2, verset 6, elle est assise dans les lieux célestes avec Christ. Déjà, c'est fait. D'ailleurs, Paul lui-même le dira dans Romains chapitre 7, verset 17, il dit « Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, ce n'est plus moi qui pêche, mais c'est le péché qui habite en moi. » Et il faut bien comprendre que quand on devient chrétien, on devient une nouvelle création, on reçoit un nouveau cœur dans lequel Dieu a placé sa loi, dans lequel Dieu a placé, c'est dans Hébreux chapitre 10... Ah, je vais la trouver. Je le trouve pas, mais... si, c'est au chapitre 8, verset 10 d'Hébreux. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Alors là, c'est une application, en premier lieu, c'est pour Israël, mais ça, c'est une application pour nous. C'est que il a inscrit la loi dans notre cœur. D'accord ? Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. C'est ça la différence. Mais l'ancienne nature est toujours là. D'accord ? Aux yeux de Dieu, elle est morte. Elle a été crucifiée avec Christ. En Romains chapitre 6, on est mort. Et on doit se voir comme mort au péché. Et quand je pêche, ce n'est plus moi qui pêche, c'est le péché qui est en moi. Je ne suis plus mon péché, je ne suis plus mes erreurs, je ne suis plus mon passé. Et c'est tellement important d'être libéré de ça. C'est-à-dire c'est ça vivre de la grâce. Parce que sinon, on est toujours esclave. On est toujours sous cette loi, on est toujours sous ce système. Ben, j'y arrive pas et j'y arriverai jamais. Non, moi, j'y arrive pas, mais Christ y est arrivé. Moi, je suis en Christ, et c'est à Christ que je regarde. C'est plus à moi que je regarde. Et c'est ça, l'humilité. Le problème de l'homme, c'est qu'il est orgueilleux, donc il regarde à lui. Et il voudrait y trouver quelque chose de bien, maintenant qu'il est sauvé. Il voudrait y trouver quelque chose qui, maintenant, ah ben voilà, ça va plaire au Seigneur. Non, en toi, il n'y aura rien qui plaira, jamais quelque chose qui plaira au Seigneur, de la chair. Sa destinée, c'est la mort. C'est déjà fait. De la même manière qu'on est assis dans les lieux célestes. Alors, tu ne le vois pas que tu es assis dans les lieux célestes. Tu le vois ? D'accord ? Tu ne le vois pas. Tu vois plutôt que tu es encore bien sur la terre et les pieds dans la poussière. Mais en réalité, c'est déjà fait. La vérité. D'accord ? Donc, c'est bien important de toujours savoir rebondir quand on pêche. Dans Jean, 1 Jean chapitre 1, verset 9. C'est pas de se lamenter. Malheureusement, dans le système religieux, c'est ce qu'on fait. Dans certaines religions, ben, c'est la pénitence. Et il faut passer un jour, deux jours, trois jours, une semaine, un mois à payer pour le péché. C'est pas la grâce, ça. On est sous un système de loi. On essaye encore de se faire croire qu'on peut valoir quelque chose aux yeux de Dieu. Il faut qu'on dépasse ça. Il faut qu'on accepte qu'on ne pourra jamais plaire à Dieu par nos efforts et par nos œuvres. Ce n'est pas que nos œuvres ne sont pas importantes, elles n'ont pas de la valeur, bien sûr. Mais elles ne rentrent pas en jeu quand il s'agit de nous justifier devant Dieu. On est juste devant Dieu à cause de Christ, point barre. On est saint devant Dieu parce que Jésus est saint. Et j'avancerai avec ça. Cette sainteté positionnelle qui est absolue, dans Hébreux chapitre 10, verset 9 et 10, il dit ceci. « Voici, je viens pour faire ta volonté », donc il s'agit de Jésus. « Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde », donc c'est cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes. « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes, c'est pas nous serons, c'est que nous sommes, sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. » Et ça s'arrête pas là. Voilà, on est sanctifiés par l'offrande de Jésus-Christ. « Une fois pour toutes ». C'est, voilà, c'est avec un gros point, c'est fait, c'est terminé, c'est accompli, c'est l'œuvre accomplie. C'est ça la grâce. C'est que je suis saint, je suis sanctifié, je suis positionnellement, je suis dans le bien-aimé. Et rien ne pourra m'arracher, c'est Jean chapitre 10, rien ne pourra, ma personne. Romains chapitre 8 aussi, les derniers versets de Romains chapitre 8, je vais vous le lire parce que Jean 10, il dit, c'est quoi, verset 29. « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » D'accord ? On est assis à la droite de Dieu, on est sous, là, il nous tient dans sa main. Personne ne peut nous ravir de sa main. On est saint, on est juste, on ne peut pas perdre son salut. Peu de chrétiens, malheureusement, dans le christianisme en entier, beaucoup pensent que s'ils font un gros péché, ils ont perdu le salut. D'accord ? Non, on est saint. Alors ça ne veut pas dire que le péché qu'on peut faire, bien sûr, n'aura pas des conséquences, d'accord ? On peut lire dans les histoires de la Bible, les conséquences du péché, c'est la mort, et donc il y a des conséquences, forcément. Et le verset que je voulais vous lire, c'était dans Romains, chapitre 8. Paul qui écrit... Il dit qu'on est plus que vainqueur, et au verset 38, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Rien. D'accord ? Ça, c'est notre sécurité, ça, c'est notre assurance. Et c'est ce qu'on doit méditer, c'est sur ça qu'on doit méditer, sur cette déclaration d'amour que Dieu nous fait, sur cette assurance, sur cette sécurité. Parce que sinon, on va reglisser dans un système où il va falloir qu'on mérite notre position, nos privilèges, et qu'on essaye de... On reglisse sous la loi sans... Parce que la grâce, ce n'est pas naturel pour nous. Hein. Il n'y a rien de naturel. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 4, il dit aussi « En lui, donc en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, donc c'était même fait avant qu'on existe, pour vous dire que c'est vraiment fait, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » Ça, c'est notre position, n'est-ce pas ? Parce que nous, on dit « Oui, mais encore là, aujourd'hui, je ne suis pas parfaitement saint. » Dans notre expérience, d'accord, mais dans notre position, on est saint. Il faut qu'on le saisisse, il faut qu'on le proclame, il faut qu'on le médite, il faut qu'on l'élève, parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient pour nous accuser. D'accord ? Il vient pour nous garder la tête dans le... dans nos péchés, dans le découragement, dans le fait, oh ben Dieu il est grand mais pas pour moi, Dieu il a fait ça mais ça marche pas pour moi, et en fait de nous garder sous un système de culpabilité, de loi, de règles, de standards inatteignables, et où on vit pas notre position. Alors que la grâce de Dieu va nous amener à tendre à vivre dans notre position. Donc on va parler de la sanctification progressive maintenant, c'est-à-dire qu'on vit bien ici sur cette terre, et comment on va vivre ici sur cette terre. On est d'accord? Aussi, vous pouvez noter, vous lirez à la maison, Hébreux chapitre 10, verset 14, hein, où par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, voilà. À l'œuvre accomplie, je ne peux ni ajouter ni enlever quoi que ce soit. Ça, c'est l'œuvre accomplie. À la croix, on n'ajoute rien, on n'enlève rien. C'est fait. Tetelestai, c'est accompli. Je vis des mérites de Christ. On va dire, mais c'est pas juste ça. Ah, selon la justice propre, non, c'est pas juste. Selon la justice des hommes, non. Mais selon la justice de Dieu, oui. Et qu'est-ce qui va rester pour l'éternité? Et qu'est-ce qui est la vraie justice? C'est la justice de Dieu. Donc même nous, on se dit, c'est pas juste. Et pourtant, c'est juste. Donc, non seulement Dieu nous a placés en Jésus-Christ dans une position de perfection, et en même temps, Dieu a un plan de faire de nous qui sommes des pécheurs, des saints. C'est-à-dire que maintenant, et là, quelquefois, on se trompe en pensant, ok, la justification, la sanctification positionnelle, ok, c'est l'œuvre de Jésus-Christ, c'est la croix. Mais maintenant, quand même, j'ai quelque chose à faire. Maintenant, dans la sanctification progressive, c'est à moi de prendre les choses en main. Et là encore, c'est l'œuvre de la grâce. C'est encore une grâce. C'est encore la grâce de Dieu. Maintenant, ça va être l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et donc, ma seule responsabilité à moi, c'est d'être en communion avec le Saint-Esprit. C'est de ne pas l'empêcher de faire son œuvre. Mais je ne peux pas me changer, je ne peux pas me transformer. Mais je peux être en communion avec lui. Je peux laisser la lumière me remplir. Je peux laisser l'amour de Dieu me combler. Je peux laisser la motivation, ma motivation pour vivre, être transformée. Au lieu que ce soit la crainte et la culpabilité et la honte, maintenant c'est l'amour. Et c'est pour ça que c'est tellement important de méditer et de penser sur notre position en Christ. Parce que sinon, on va être vite désécurisé si ça dépend de mes réussites. Parce qu'on peut être facilement trouvé, si on est honnête. Alors des fois, on pense qu'on est juste à nos propres yeux. Hein. Vous regardez dans la Bible, les pharisiens, ils pensaient que oula, ils avaient bien fait, ils étaient impeccables, tout allait bien. Alors qu'ils étaient, loin, très loin de Dieu. Donc Dieu, son projet, c'est de nous transformer, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, en Romains 8, 29. Et en Tite, chapitre 2, verset 14, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ah ! Attends, on parle de la grâce, là. S'il y a la grâce, il n'y a plus de bonnes œuvres. Bien sûr qu'il y en a des bonnes œuvres. Puisque même dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, où il est parlé du salut par la grâce, au moyen de la foi. La foi, c'est le moyen de se l'approprier. La grâce, c'est le cadeau que Dieu nous fait quand on ne peut que le recevoir. Enfin, on peut le rejeter aussi, c'est tragique, hein, ceux qui rejettent la grâce. Mais juste après, il est dit qu'on est l'ouvrage de Dieu, on a été créé pour des bonnes œuvres ou des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour nous. Donc, évidemment, le but de la grâce, c'est pas de nous dire, ben voilà, vous êtes sauvés, vous êtes en position, maintenant continuez à vivre comme des pourceaux, comme vous viviez avant, continuez à vivre dans vos péchés, continuez à vivre dans vos convoitises. Non, justement, la grâce, la loi, ne pouvait pas, le standard de savoir ce qu'il fallait pas faire, ça nous suffit, enfin, on n'était pas capable, en fait. Mais la grâce nous rend capable. D'accord? Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le Saint-Esprit, maintenant, n'est pas seul. On a le Saint-Esprit en nous. On a la parole de Dieu. D'accord? On a l'intercession de Jésus-Christ, personnel. Il intercède pour nous. Alors, c'est pas juste il intercède pour l'église de la grâce de Nîmes. Non, il intercède pour Monique, il intercède pour René, il intercède pour Alfio, il intercède pour Aurélie, pour Gaël, pour Patrick. Il intercède pour chacun d'entre nous. Ah, là, il y a peut-être des changements qui vont se passer. Et c'est, j'aimerais vous dire, ce qui change quelqu'un, c'est la grâce. Parce que ça transforme de l'intérieur. Alors peut-être qu'au départ, l'extérieur, ça paraît toujours chaotique. Mais parce que nous, le dressage, c'est de s'occuper de l'extérieur. L'éducation, c'est de travailler à l'intérieur. Peu importe l'aspect extérieur. Ce qui compte, c'est que la lumière, si elle vient dans l'intérieur, à un moment donné, elle va gagner, elle va prendre la place et, l'extérieur va être transformé aussi. Mais le problème, c'est que la loi et le légalisme... La loi et le légalisme, on dresse des gens. Mais ils ne sont pas transformés. Ils sont conformés à un moule, à une, alors selon les groupements d'église, ben voilà, le moule c'est ça, ben voilà, il faut être comme ça, donc il faut faire ça. Le programme c'est ça, donc on fait le programme. Non, c'est parce qu'on est rempli de Dieu qu'on a envie de vivre les choses qui sont proposées dans l'église. Et ça nous aide aussi de se discipliner peut-être à vivre avec les frères et sœurs pour expérimenter. Parce que tout seul, voilà, on est limité, on est des êtres humains. Donc, la sanctification progressive, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui demeure en nous. En Jean 14, chapitre 16, et ça, il faut se le rappeler. Des fois, on dit, mais comment est-ce que le Saint-Esprit est vraiment en moi ? Oui, il est en toi, parce que la Bible nous dit, Jésus nous dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, Paraclétos, celui qui vient, il se met à notre côté, et qui marche avec nous, d'accord ? Qui est à nos côtés, et qui nous conduit, et qui nous console, et qui nous enseigne, et qui nous montre Jésus, et qui nous rend capable de maintenant aimer les choses de Dieu, aimer ce qui est juste, aimer ce qui est vrai, aimer ce qui est éternel. On n'a aucun goût pour ça, la chair n'a pas de goût pour ces choses-là. D'accord ? Il fallait que ce soit cette semence incorruptible en nous qui puisse nous donner ce désir, ce goût. Et donc, un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alors, s'il vient et qu'il demeure éternellement, comment il peut s'en aller ? Parce qu'on a fait un trop gros péché ? C'est comme si Dieu, il savait... C'est comme... Imaginez, si on pouvait perdre le Saint-Esprit, qui nous est promis éternellement, c'est comme... Si Dieu n'était pas omniscient, c'est-à-dire qu'il nous a sauvés, mais il ne savait pas le péché qu'on allait faire après. Je peux vous dire que Dieu sait tout. Il sait tous les péchés que vous allez faire encore. Jusqu'à ce qu'on soit dans sa présence et que là, il n'y aura plus de péché. Mais il sait tout et il a payé, le sang a payé, a coulé, ça suffit. Il n'y a pas besoin de rajouter autre chose. Il n'est pas « Oh là là, si j'avais su qu'il allait faire ça !» Est-ce que vous pensez que le péché de David avec Bathsheba et Uri et tout ce qui ça et toutes les conséquences, est-ce que vous pensez pas que Dieu savait ? Est-ce que Dieu voulait ? Certainement pas. Dieu veut pas qu'on blesse les autres et qu'on se blesse soi-même et qu'on subisse les conséquences du péché. Mais ah ben maintenant David sera plus un homme selon mon cœur. Comment c'est possible ? David, un homme selon le cœur de Dieu ? Un meurtrier ? C'est quoi ça ? Ben, c'est la grâce de Dieu. Si c'est possible pour lui, ben, ça veut dire que moi aussi. C'est ça la grâce. Ça veut dire que nous, dans la pensée de l'homme, c'est ben, il faut être super fort pour être chrétien, il faut être super discipliné, il faut être super balèze, il faut être altruiste, il faut aller vers les autres. Non, il faut juste que Jésus grandisse en nous. Et il faut donc juste être assez petit, assez faible. Et en fait, c'est ceux qui sont riches qui sont petits et faibles aux yeux de Dieu. Ceux qui sont riches en eux-mêmes, mais ceux qui reconnaissent leur pauvreté, ceux qui se reconnaissent qu'on est des ouvriers de la dernière heure, qu'on n'a pas de valeur, qu'on ne peut rien faire, mais qu'on peut recevoir la grâce et être au bénéfice de la grâce, alors là, oui, on va commencer à se réjouir de la grâce. Et donc, le processus de sanctification progressive commence au moment du salut. Lorsque on est de nouveau, lorsqu'on devient une nouvelle création, que le Saint-Esprit est scellé en chacun de ceux qui l'acceptent, en Éphésiens 1, 14, Et c'est lui qui va être l'initiateur de cette œuvre de sanctification progressive. C'est lui qui nous sanctifie. D'ailleurs, 1 Thessaloniciens 5, 23 nous le dit, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Déjà, s'il avait dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, bon, c'est qui fait l'œuvre? C'est Dieu de paix. Mais lui-même, c'est comme si tu comprennes bien que c'est pas toi qui le fais, c'est lui qui le fait. C'est lui qui nous amène, qui nous fait grandir. D'accord? Alors, bien sûr que moi, j'ai une responsabilité. C'est pas qu'il enlève mon libre arbitre. Il nous l'a donné depuis le départ et c'est la cause de tous les problèmes. Mais c'est que ce libre arbitre, moi, je dois accepter, choisir, et c'est ma décision, de laisser la place au Saint-Esprit de faire cette œuvre en moi, de sanctification. D'accord? Donc, d'être à l'écoute, d'être à... voilà, de le laisser me faire grandir, travailler en moi. Et il va nous sanctifier esprit, âme et corps pour qu'on soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, c'est quand on va arriver à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, on sera irrépréhensible. Parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas la mienne. C'est lui qui le fait. Et l'œuvre du Saint-Esprit, ça va de nous faire aimer Dieu, les choses de Dieu. C'est pour ça que Jean dira, en 1 Jean chapitre 5 et verset 3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Donc, mais on est sous la grâce. Alors s'il y a la grâce, il n'y a plus besoin de commandements. Si, les commandements sont toujours bons. Et d'ailleurs, c'est de garder les commandements de Dieu, c'est une preuve qu'on aime Dieu. Ça veut dire, c'est une preuve qu'on laisse la grâce de Dieu œuvrer dans nous pour qu'on aime marcher maintenant avec Jésus. D'accord ? On ait envie d'être avec Jésus. On ait envie, et c'est Philippiens chapitre 2, verset 13, qui dit que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. D'accord ? Ça, c'est la grâce de Dieu. Ma part, c'est de respirer, désirer, soupirer après cette vérité et cette grâce. Parce qu'il dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est-à-dire, marcher avec Dieu, ce n'est pas pénible. Son joug, il est doux, il est léger, parce qu'il y a l'amour, parce qu'il y a la grâce. Parce que quand on échoue, ce n'est pas la condamnation, ce n'est pas l'accusation, ce n'est pas le rejet, ce n'est pas l'abandon. C'est le regard du Père qui attend qu'on accepte à nous-mêmes, de rentrer en nous-mêmes, de réaliser notre misère et de dire « Oui, j'ai péché, je confesse mon péché, je suis d'accord avec toi, c'est le péché. Mais merci parce que toi, tu es fidèle et juste de me pardonner et de me purifier. » Et donc maintenant, je ne vis plus selon la culpabilité, je ne vis plus selon la condamnation, je vis en respirant la grâce de Dieu, en me nourrissant de la grâce de Dieu, en continuant de contempler la croix de Jésus-Christ. Ici, pénible, c'est le mot barus en grec. C'est quelque chose qui pèse lourd. Ça veut dire la culpabilité, ça pèse lourd. La crainte, ça pèse lourd. Vous savez, les gens, ils donnent l'apparence, mais dès qu'on gratte un petit peu, s'il n'y a pas la grâce de Dieu, c'est ce qui motive les gens. C'est la crainte d'être rejeté, la crainte que les gens voient vraiment qui on est. Problème d'identité. Donc avant on était sous la loi, c'était l'ancien régime. Maintenant on est sous un nouveau régime. Avant c'était un code extérieur avec des lois, et on était hostile parce qu'on était opposé à cause du péché, on était incapable de et donc c'était sous une forme de légalisme, de crainte. Et malheureusement, on peut vivre encore le christianisme sous cet ancien régime. Si on ne vit pas dans la grâce de Dieu, si on ne se garde pas dans la grâce de Dieu, si on ne demande pas au Seigneur de nous révéler la grâce de Dieu. D'accord ? De nous attacher à la grâce de Dieu. Et c'était un système d'œuvre. Maintenant, le nouveau régime, c'est qu'on a une soif, on a un désir intérieur. Grâce au Saint-Esprit, qui lui nous rend capables. Qui lui nous donne la joie. Parce que maintenant, c'est écrit dans le cœur. C'est-à-dire, voilà, la semence, elle est la semence incorruptible dans 1 Pierre chapitre 1, elle est dans notre cœur. Et caractériser le chrétien maintenant. C'est plus la crainte, mais c'est la gratitude, la reconnaissance. C'est pour ça que en Thessaloniciens, il dit qu'il veut notre sanctification, et après, plus loin, il dit d'être reconnaissant pour toute chose. Voilà, la reconnaissance. Pourquoi ? Parce qu'on a l'aide du Saint-Esprit, parce qu'on a la vérité, parce que l'œuvre est accomplie, parce que mes péchés, ils sont plus sur moi. Ce qu'il dira Paul en Romains chapitre 4, qui rappelle le psaume de David en psaume 32, qui dit « Heureux l'homme à qui le péché n'est pas imputé, son iniquité n'est pas imputée. » Ça, c'est la bonne nouvelle. D'accord ? D'être libéré de ça. Et ça, d'abord, c'est dans la pensée, mais si on se nourrit de cette pensée, de cette vérité, de cette grâce, eh bien, ça va faire que le péché, il aura plus ses attaches sur nous. Comprenez ? Mais si on est dans la loi, alors là, la loi, en fait, elle le stimule, le péché. Dans 1 Corinthiens chapitre 15. Et enfin, on aura un appui aussi. Et cet appui, c'est la grâce de Dieu. Donc, sanctification positionnelle, Éphésiens chapitre 2, verset 6. D'accord ? On est assis dans les lieux célestes avec Christ. On a été sanctifié, Éphésiens chapitre 1, verset 4. On est, avant la fondation du monde, on est saint et irréprochable devant lui. Et en Hébreux chapitre 10 et verset 10, par le sacrifice de son corps, on nous a sanctifié une fois pour toutes. Donc, voilà, ça c'est notre position. Sanctification progressive, c'est qu'on vit sur cette terre. Et parce qu'on médite sur notre position en Christ, parce qu'on reçoit la parole de Dieu, parce qu'on laisse le Saint-Esprit nous révéler Jésus-Christ et la grâce de Dieu, eh bien, on commence à expérimenter cette délivrance positionnelle. On a été délivré de l'esclavage du péché. Et c'est que par la grâce qu'on peut être délivré de l'esclavage du péché. C'est pas par la loi, par des règles, par des efforts, c'est la grâce seulement. D'accord ? Et donc ça, ça va être toute notre vie de continuer de réaliser que si on s'égare un petit peu de l'œuvre du Saint-Esprit, de la grâce de Dieu, on va devenir des chrétiens légalistes. Avec une certaine connaissance des choses de Dieu, avec le langage, avec le vocabulaire, on va parler de la grâce, de la grâce, de la grâce, mais on ne vivra pas dans la grâce. Et enfin, la sanctification ultime. Vous savez ce que c'est la sanctification ultime ? C'est quand ça sera tout ça, ça sera enfin. On va voir tout ça, on va l'expérimenter, on sera dans la présence de Dieu. Dans Jean chapitre 3 et verset 2, il est dit ceci. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Donc ce n'est pas quand on sera là-haut au ciel, c'est maintenant. On est en position, voilà, c'est notre position, on est enfants de Dieu, on est saints. Et ce que nous serons, donc ça c'est notre... C'est la sanctification ultime. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Dans la réalité, on est encore des pécheurs. On a encore le péché qui est attaché à nous, mais on n'est plus notre péché. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, donc quand il va venir nous chercher, ou quand nous, on va aller le rejoindre, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça, c'est notre sanctification ultime. Ça va se faire. Et ne nous décourageons pas en disant « Ouh là là, mais moi je suis un cas à part. » On est tous des cas à part. Et en fait, parce que nous, pour nous, c'est impossible. D'accord ? Et si le croyant pense que c'est lui qui doit se sanctifier, il est mal parti. Merci. Voilà. Mais si... Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas grandir, bien sûr. Ça ne veut pas dire que... Et je terminerai quand même, parce qu'un dernier verset dans Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3. Il commence au verset 1. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc ça veut dire, pour nous, ce n'est pas un si, au cas où peut-être certains de vous êtes ressuscités avec Christ. C'est puisque vous êtes ressuscités avec Christ. L'enfant de Dieu, il est ressuscité avec Christ. Donc maintenant, on doit fixer les yeux vers le haut, vers Jésus-Christ, vers notre position. On doit méditer sur ça et pas sur notre expérience. C'est pas qu'on vit dans le déni, mais on veut élever la vérité. D'accord ? La grâce et la vérité. La grâce, c'est que cette vérité, je peux la vivre par Jésus-Christ. Et après, il va dire au verset 12, Il dit ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Voilà ce que ça va produire la grâce. Des relations saines, des relations selon le cœur de Dieu, où il y a le pardon, où il y a la patience, où il y a l'humilité, où il y a la douceur, où il y a de la bonté. Aujourd'hui, le diable, il est fort, il fait des contrefaçons. Aujourd'hui, on parle de bienveillance dans le monde. Ça fait partie, c'est vocabulaire chrétien, la bienveillance. D'accord ? Voilà, mais c'est comme ça qu'on devrait se parler. Et c'est possible parce que Christ en moi. D'accord ? Et parce que je vis selon la position qu'il m'a offerte, et par la grâce de Dieu. Et verset 13, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ben, si on vit ça, ça va régler pas mal de problèmes. N'est-ce pas ? Donc c'est vers cette vie-là, c'est ce que la grâce va accomplir dans notre vie. C'est ce genre de relation. Et ça vient de l'œuvre de Jésus-Christ, de la croix. D'accord ? Donc, demandons au Seigneur encore de nous aider à saisir cette grâce et à vivre dans cette grâce et à se garder dans cette grâce et se nourrir encore de cette grâce. On ne sera jamais au bout de ça. Pour dire, oh ben c'est bon, maintenant, en fait, la grâce, ça doit être dans tous les messages. Hein, c'est que c'est Christ qui fait l'œuvre en moi. Amen. Donc, Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ce projet de nous transformer à ton image. Et parce que c'est toi qui le fais, Seigneur, nous avons de l'espérance et nous avons cette confiance, Seigneur, que tu es plus grand que le péché, plus grand que le diable, et que ton œuvre, elle va s'achever parfaitement et qu'un jour, on sera dans ta présence et dans ta gloire et qu'on te ressemblera. Et en attendant, aide-nous à tendre vers ça et à ne pas nous laisser décourager ou abattre, Seigneur, parce qu'il y a encore des échecs, des erreurs du péché, Seigneur. Tu as tout accompli, tu as tout couvert. Merci pour ta grâce et ta vérité au nom de Christ. Amen.